Alors, nous allons évoquer maintenant le mystère de l'Esprit-Saint. Alors, au catéchisme, un jour, une sœur de la communauté avait demandé à des enfants de rédiger une petite prière à l'Esprit-Saint. C'est comme un exercice difficile pour des enfants. Et alors, il y en a un qui avait commencé ainsi. « Esprit-Saint, même si tu n'es que la troisième personne de la Trinité. » Voilà. Alors... Et l'Esprit-Saint n'est que la troisième personne de la Trinité. Sœur Gaëtaine vient de vous dire aussi la manière dont Dieu s'est révélé avec beaucoup de pédagogie. En 2008, lorsque Benoît XVI avait présidé les Journées mondiales de la jeunesse à Sydney, le thème était « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. » Et au cours de la veillée, voici ce qu'il avait dit aux jeunes. L'Esprit-Saint a été de quelque manière l'oublié de la Sainte Trinité. Une claire compréhension de sa personne semble presque hors de notre portée. Et cependant, quand j'étais encore un petit garçon, mes parents, comme les vôtres, m'ont enseigné le signe de la croix. J'ai ainsi très tôt compris qu'il y a un Dieu en trois personnes et que la Trinité est au centre de la foi et de la vie chrétienne. Quand j'ai cru au point d'avoir une certaine compréhension de Dieu le Père et de Dieu le Fils, leurs noms parlaient déjà d'eux-mêmes, ma compréhension de la troisième personne de la Trinité restait faible. C'est pourquoi... Comme jeune prêtre chargé d'enseigner la théologie, j'ai décidé d'étudier les grands témoins de l'Esprit dans l'histoire de l'Église. Et c'est vrai qu'un père, tout le monde sait ce que c'est, un fils, tout le monde sait ce que c'est, un Esprit Saint, dans l'expérience commune, c'est quand même moins naturel. Alors on vient d'approfondir avec Sœur Gaëtane la révélation contenue dans la parole de Dieu concernant l'Esprit Saint, et donc il nous faut maintenant poursuivre pour voir comment l'Église, qui précisément est conduite par l'Esprit-Saint, nous dit Jésus, vers la vérité tout entière, comment l'Église a approfondi ce mystère de l'Esprit-Saint et l'a progressivement formulé. Alors on va le faire aussi en trois parties. On va voir d'abord quelques éléments de théologie trinitaire sur la Trinité. Ensuite on verra quelques points sur l'Esprit-Saint à l'époque patristique, l'époque des pères de l'Église. Donc les tout débuts de l'Église, et puis ensuite on verra quelques approfondissements ultérieurs. Alors d'abord, quelques éléments sur la théologie de la Trinité. Nous confessons donc un Dieu Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Donc avant de nous approcher un peu plus du mystère de l'Esprit-Saint, essayons de contempler autant que nous le pouvons quelques éléments du mystère de la Trinité. D'abord, relisons ce qu'enseigne le catéchisme de l'Église catholique sur la Trinité en citant plusieurs conciles. La Trinité est une. Nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. Bon, alors c'est peut-être une évidence pour nous, mais les musulmans sont toujours persuadés quand on dialogue qu'on adore trois dieux. Hein, et quand ils ne nous disent pas Marie, Jésus et Joseph. Bon, alors, pour reprendre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, est un seul Dieu. La Trinité consubstantielle. Les personnes divines ne se partagent pas l'unique divinité, mais chacune d'elles est Dieu tout entier. Ça, c'est très important. L'Esprit-Saint n'est pas un tiers de Dieu. Voilà. On a trois personnes qui chacune sont 100% Dieu. Le Père est cela même qu'est le Fils cela même qu'est le Père et le Fils cela même qu'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire un seul Dieu par nature. Chacune des trois personnes est cette réalité, c'est-à-dire la substance, l'essence ou la nature divine. Ces trois mots sont à peu près équivalents. Vous voyez, donc la substance, la nature ou l'essence, ça désigne l'être divin. Dans son unité. Donc il y a un seul être divin, un seul Dieu, une seule substance divine. Tandis que la personne, le terme grec c'est hypostase, la personne désigne le Père qui est une personne, le Fils qui est une personne et l'Esprit-Saint qui est une personne. Et donc ça désigne chacune des personnes dans leur distinction réelle entre eux. Donc il y a une seule nature divine, une seule substance divine en trois personnes. Ainsi, poursuit le catéchisme, et c'est la richesse extraordinaire qui est en Dieu lui-même, c'est ça qui est magnifique, c'est que, dit le catéchisme dans cette formule très concise, Dieu est unique, mais non pas solitaire. Et quand Saint Jean dit Dieu est amour, c'est beaucoup plus fort que de dire que Dieu nous aime, c'est que Dieu est amour en lui-même, puisqu'il est trois personnes qui s'aiment. Donc lorsqu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on ne désigne pas trois manières d'être, trois modes d'être, ça a été une hérésie au début de l'Église, ça aussi, mais réellement trois personnes qui ont des relations entre elles, tout en formant un seul être divin. Dans ces relations, et alors ça c'est très important, on en reparlera un peu ce soir, dans ces relations il y a une hiérarchie. Et ça nous dit d'ailleurs quelque chose de très important sur ce qu'est une hiérarchie. C'est depuis la Révolution française où on a coupé les têtes, on est persuadé que quand il y a une hiérarchie, c'est qu'il n'y a pas l'égalité de dignité. Mais c'est une aberration. La hiérarchie donne un ordre. Un ordre, dans une famille, il y a une hiérarchie. Dans une nation, il y a une hiérarchie. Ça ne signifie pas que le chef d'État... Bon, je m'arrête là pour... Bon... Voilà. Une hiérarchie, ça ne signifie pas une plus grande dignité de celui qui est, si vous voulez, qui est à la tête. Voilà. Quand on est à la tête, on est au service. Donc voilà, quand on dit hiérarchie, ça ne signifie pas différence de dignité. Et donc dans la Trinité, il y a une hiérarchie. Voici ce que dit le catéchisme. En effet, c'est le Père qui engendre. Le Fils qui est engendré et le Saint-Esprit qui procède. Donc on parle parfois, même en République, de la monarchie du Père. Voilà. La monarchie du Père, ça signifie qu'il est monos archos, il est le seul principe. Il est à l'origine et du Fils et du Saint-Esprit. Le Fils et l'Esprit-Saint ont leur origine dans le Père. Et pourtant, ils existent tous les trois de toute éternité. Il n'y a jamais eu un moment où le Père a existé tout seul et où il s'est dit « faisons un Fils et un Saint-Esprit », sinon le Fils et le Saint-Esprit ne seraient pas Dieu. Donc quand on dit « origine », ça ne veut pas dire au sens chronologique. Pour nous, c'est difficile à comprendre. Mais ça veut dire dans le domaine de l'être. Ça veut dire que de toute éternité, le Fils est engendré par le Père et... L'Esprit-Saint procède du Père par le Fils, on y reviendra. Alors pour rassurer un peu ceux d'entre vous qui n'auraient pas tout compris maintenant du mystère de la Trinité, rappelons cette petite anecdote de saint Augustin qui un jour méditait sur la plage, sur ce mystère de la Trinité, et qui aperçoit un petit garçon qui, à l'aide d'un coquillage, lui explique vouloir transvaser l'eau de la mer dans un trou qu'il vient de faire sur le sable, dans le sable. Et saint Augustin lui dit « Mais ça sert à rien, tu n'arriveras jamais à mettre la mer dans ton trou. » Et l'enfant lui répond « Cela me sera plus facile qu'à toi d'épuiser avec ta raison humaine le mystère de la Trinité. » Et l'enfant disparaît. Voilà. Benoît XVI avait mis sur ses armoiries épiscopales, et qu'il a gardé comme pape, le coquillage, comme symbole de la recherche théologique à laquelle il ne faut pas renoncer, parce qu'il faut approfondir avec sa raison. Et voici comment il résumait ce mystère de Dieu qui est, on dit, un et trine. Je le cite. « Il est important que la foi chrétienne maintienne les deux affirmations. Dieu est unique et d'une profonde unité. Mais cette unité, la plus profonde qui soit, n'est plus unité de ce qui est indivisible, mais est le résultat d'un dialogue d'amour. Dieu l'unique est en lui-même relation. C'est pourquoi il peut créer la relation. Nous pouvons, d'une certaine manière, en soupçonner le sens, même si nous ne pouvons pas absolument absolument pas en résoudre le mystère. Nous connaissons quelques symboles toujours très limitée, bien sûr, mais utilisée par les saints pour donner des images de la Trinité. Saint Patrick montrait aux Irlandais le trèfle, hein, l'unique fleur à trois feuilles. Alors souvent, il y en a quatre, mais chercher à trois feuilles, ça prend du temps, mais on en trouve quand même. Le triangle, qui est utilisé très souvent dans l'art pour représenter Dieu, vous voyez, une réalité avec les trois côtés. Ou encore, on peut souligner que la Sainte Famille a été, pour certains artistes et pour des saints aussi, un reflet de la Sainte Trinité. C'est ce que dit par exemple le catéchisme de l'Église catholique, qui dit « La famille chrétienne est une communion de personnes, traces et images de la communion du Père et du Fils dans l'Esprit-Saint ». Benoît XVI aussi en 2009 disait que la famille humaine est dans un certain sens une icône de la Trinité. Alors venons-en à l'époque des Pères de l'Église. On est obligé d'aller très vite. Comme nous le savons, puisque nous venons d'en célébrer les 1700 ans, en cette année, l'année dernière plutôt, 2025, le Concile de Nicée a eu lieu en l'an 325. Donc il avait été convoqué par l'empereur Constantin pour mettre fin aux querelles qui agitaient l'Empire sur la divinité du Christ. Et ces querelles, aujourd'hui les querelles théologiques, ça n'a pas beaucoup d'influence sur l'état de la France. Bon. Mais à l'époque, il n'en était pas ainsi. Et ces querelles théologiques avaient beaucoup d'impact sur l'unité de l'Empire. Et c'est pour ça que ça contrariait beaucoup l'empereur et que c'est l'empereur Constantin qui a convoqué le concile de Nicée. Donc, le concile, nous le savons, a condamné Arius et sa doctrine, hein, Arius qui niait la divinité de Jésus, et a professé le symbole de Nicée, qui proclame notamment au sujet de Jésus, nous le connaissons bien, il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Donc, on a ce concile de Nicée en 325. On va y revenir un petit peu après, mais il fallait le rappeler. Alors, on va prendre trois points pour cette époque patristique. On est obligé de faire très court. D'abord, Saint Basile, et puis les pères qu'on appelle cappadociens, le concile de Constantinople, et un petit mot sur Saint Augustin. Donc, après la condamnation, comme on vient de le voir, de l'hérésie arienne en 325, par le concile de Nicée, une autre hérésie se développa, analogue à celle d'Arius. Donc Arius pensait que le Fils n'était pas vraiment Dieu et qu'il avait forcément à un moment été créé d'une certaine manière par le Père. Donc il n'était pas vraiment Dieu, donc c'est une hérésie, c'est une erreur concernant le mystère de la Trinité. Et donc s'est développée un peu après une hérésie analogue concernant le Saint-Esprit, une hérésie qu'on a appelée le macédonianisme, parce que les tenants de cette hérésie se rattachaient à un évêque de Constantinople qui s'appelait Macédonius, qui lui-même n'était pas hérétique, mais on s'y s'était rattaché plus ou moins à son enseignement. Et donc ceux qui ont répandu cette hérésie, on les a appelés les pneumatomaques. Donc les pneumatologues, on a vu tout à l'heure, c'est ceux qui étudient l'Esprit-Saint, et les pneumatomaques, ce sont ceux qui combattent l'Esprit-Saint. Et donc voilà, donc pareil, ils faisaient de l'Esprit-Saint une créature du Père qui n'était pas vraiment Dieu, égal au Père. Alors face à ces pneumatomaques, on réagit ceux que l'on appelle les pères cappadociens, c'est-à-dire tout simplement qui étaient dans la région de la Cappadoce, hein, donc les trois qui sont bien connus, saint Basile, qui était évêque de Césarée, saint Grégoire de Nice, qui est son petit frère, hein, et saint Grégoire de Nazianze, qui est le grand ami de saint Basile. Ils ont fait leurs études ensemble et bon... Donc trois grands amis, trois grands évêques qui ont contribué à la fois à maintenir la foi du concile de Nicée, qui avait eu lieu quelques décennies auparavant, mais qui ont aussi développé cette foi de Nicée et en particulier qui ont enrichi la doctrine de l'Église sur le Saint-Esprit en préparant et en animant le concile de Constantinople qui a eu lieu en 381. On va y revenir dans un instant. Donc Basile de Césarée, saint Basile de Césarée, a écrit un traité sur le Saint-Esprit qu'il a achevé en l'an 375, et il insiste dans ce traité sur, encore un mot un peu barbare, mais l'homotimie, donc homo même timi, c'est l'honneur, voilà, sur le même honneur qui est dû au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Donc égalité d'honneur pour les trois. En particulier, contre ceux qui n'acceptaient pas la divinité de l'Esprit Saint, donc Saint Basile écrit que l'Esprit Saint est Dieu et qu'il doit être compté et glorifié avec le Père et le Fils. C'est donc à lui qu'on doit cette expression que nous chantons si souvent, qui cum patre et filio, simul adoratur et con glorificatur. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Saint Basile est mort en 379, 2 ans avant le concile de Constantinople, qui va préciser un peu la doctrine sur le Saint-Esprit, mais on peut considérer qu'il est un des artisans de ce concile, parce que c'est lui qui a préparé ce qui va être développé pendant ce concile, et les deux autres cappadociens, donc Saint Grégoire de Nazianze et Saint Grégoire de Nice, vont participer à ce concile de Constantinople. Donc, concile de Constantinople, qui est convoqué à nouveau par l'empereur, en cette année-là, l'an 381, il s'agit de Théodose Ier, empereur d'Orient, et qui va réunir environ 180 évêques orientaux. Voilà, le concile va prendre plusieurs décisions diverses, mais la principale fut de condamner à nouveau l'arianisme. Il y avait encore besoin, vous voyez, on est presque 60 ans après le concile de Nicée, mais la... Même si Nicée a bien rappelé la foi, ça reste compliqué dans l'Église à ce sujet. Donc on rappelle la foi de Nicée. Et puis on va compléter aussi avec la foi sur l'Esprit-Saint. Et donc les pères du Concile vont ajouter au symbole de Nicée ces quelques mots que nous connaissons bien aussi et qui concernent le Saint-Esprit. Il est Seigneur et il donne la vie. Il procède du Père. Non. On en reparlera ce soir. Il procède du Père. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Voilà, donc, j'insiste sur le Concile de Constantinople, dit « il procède du Père ». Et on reviendra ce soir sur l'ajout postérieur qui va être fait à cette affirmation. Voilà comment le catéchisme de l'Église catholique rapporte... ce qui a été donné par ce concile de Constantinople. La foi apostolique concernant l'esprit a été confessée par le deuxième concile œcuménique en 381 à Constantinople. L'Église reconnaît par là le Père comme la source et l'origine de toute la divinité. L'origine éternelle de l'Esprit-Saint n'est cependant pas sans lien avec celle du Fils. L'Esprit-Saint, qui est la troisième personne de la Trinité, est Dieu, un et égal au Père et au Fils, de même substance et aussi de même nature. Cependant, on ne dit pas qu'il est seulement l'Esprit du Père, mais à la fois l'Esprit du Père et du Fils. Voilà, alors vous avez remarqué peut-être que tout ce qu'on vient de dire, Saint Basile, les Cappadociens, le Concile de Constantinople, tout cela se passe en Orient. Dans l'Église latine aussi, même si c'est un peu moins, on en redira un petit mot ce soir, on approfondit la doctrine sur le Saint-Esprit. Alors, lors des Journées mondiales de la jeunesse, encore en 2008, Benoît XVI avait fait un discours assez audacieux d'exigence intellectuelle pour les jeunes. Quand on le relit, on se dit, mais... Enfin, il fallait de l'audace quand même pour faire un discours comme ça aux jeunes, parce qu'il faut le lire plusieurs fois pour... Et il leur a expliqué les approfondissements de saint Augustin au sujet de l'Esprit-Saint. Donc il évoque 3 intuitions particulières de l'évêque saint Augustin sur l'Esprit-Saint comme lien d'unité au sein de la Trinité. Donc unité comme communion, unité comme amour durable et unité comme don. Donc quand il y a un don, c'est qu'il est donné et qu'il est reçu. Alors d'abord, saint Augustin observe que les deux mots, c'est très intéressant comme observation, esprit et saint, le nom de la troisième personne de la Trinité, se rapportent à ce qui appartient à la nature divine. Et il dit en quelque sorte, ces termes sont ce qui est partagé par le Père et par le Fils, puisque le Père est esprit et le Fils est esprit avant l'incarnation. Le Père est saint et le Fils est saint. Donc ces deux termes s'appliquent aux deux. Donc l'Esprit Saint, s'il est la troisième personne, c'est celui qui fait le lien entre les deux, qui crée la communion. Donc si la caractéristique propre, dit Benoît XVI en citant saint Augustin, de l'Esprit est celle d'être ce qui est partagé par le Père et par le Fils, il en conclut que la qualité particulière de l'Esprit Saint est l'unité. L'unité et la communion. Puis saint Augustin applique ensuite l'affirmation de saint Jean, qu'on a évoquée tout à l'heure, quand saint Jean dit « Dieu est amour », saint Augustin dit bien sûr qu'on peut l'appliquer au Saint-Esprit. Or, saint Jean ajoute « Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu ». Et pour saint Augustin, l'Esprit Saint est l'amour, et donc la caractéristique principale de l'amour est de durer, de demeurer. Et c'est un verbe qui revient très souvent chez saint Jean, demeurer. Et donc le véritable amour nous introduit dans une unité qui dure. Donc oui, on a la communion et on a la durée, ce qui demeure. Et puis enfin, en méditant sur le dialogue de Jésus avec la Samaritaine, saint Augustin contemple Jésus qui nous révèle l'Esprit Saint comme le don de Dieu. Si tu savais, le don de Dieu est celui qui te demande à boire. Et il en conclut que celui qui se livre à nous comme don est l'Esprit Saint, celui qui se donne éternellement comme une source intarissable. Et on va finir cette deuxième partie sur ce que dit saint Augustin par rapport à l'Esprit comme amour, c'est très très beau. Il dit ceci, « Qu'est-ce que la charité ou l'amour tant loué, tant préconisé par l'Écriture, sinon l'amour du bien ?» Mais l'amour suppose quelqu'un qui aime et quelque objet qui est, ou personne qui est aimé. Voilà donc trois choses, et on revient encore à la Trinité, celui qui aime, celui qui est aimé et l'amour. Donc celui qui aime le Père, celui qui est aimé le Fils, et celui qui fait le lien, la communion, l'amour, l'Esprit Saint. Dans les développements postérieurs, on en vient à notre troisième partie. Une étape très importante dans les développements sur le Saint-Esprit va être le débat autour de l'ajout du petit mot « filioque », donc du Père et du Fils, qu'on a évoqué tout à l'heure, dans le symbole de Nicée-Constantinople. Donc nous n'allons pas en traiter maintenant, on en parlera ce soir dans la partie où on parlera de l'Esprit-Saint pour les orthodoxes, parce que c'est un sujet avec les orthodoxes. On va simplement évoquer dans cette dernière partie l'apport de deux papes concernant l'Esprit-Saint, Léon XIII et Jean-Paul II. Tous les deux ont consacré une encyclique à l'Esprit-Saint. Alors frère Xavier vous a dit tout à l'heure que le pape Léon XIII avait écrit pas mal d'encycliques. J'ai été impressionné quand j'ai vu, je ne me rappelais pas ça. Donc il a eu quand même un pontificat de 25 ans, ce qui est quand même long pour un pape. De 1878 à 1903, mais il a quand même écrit 86 encycliques. Je ne sais pas comment les gens faisaient pour les lire à ce rythme-là, et lui pour les écrire même. Et donc en 1897, il a publié cette encyclique, une encyclique Divinum Illud Munus, ce don divin, consacré à l'Esprit-Saint. On sait maintenant l'importance qu'a eu dans cette décision d'écrire cette encyclique sainte Elena Guerra, dont il sera question demain. Léon XIII, dans ce texte qui n'est pas très long, heureusement parce que si les 86 encycliques faisaient la taille de celle de Jean-Paul II, ça serait difficile, il souligne que le Seigneur Jésus n'a pas voulu achever lui-même cette mission sur toute la terre, mais qu'il a confié à l'Esprit Saint le soin de couronner l'œuvre qu'il avait reçue du Père. Et il rappelle ce que disaient saint Augustin et saint Thomas d'Aquin. Lorsque nous parlons de la Trinité, il faut de la prudence et de la réserve. Donc on va bientôt s'arrêter. Parce que, comme le dit saint Augustin, il n'y a pas de sujet où l'erreur soit plus dangereuse, où les investigations soient plus laborieuses, ni les découvertes plus fructueuses. Bon, alors c'est motivant, hein, ça fait un peu peur, mais voilà. Or, dit le pape, beaucoup ne connaissent pas cet esprit. Et c'est notre cas. Hein. Ils le nomment souvent dans leurs exercices de piété, mais avec une foi très peu éclairée. Frère Xavier l'a dit tout à l'heure, ce passage délicieux des Actes des Apôtres, où les apôtres parlent du Saint-Esprit à des jeunes à Éphèse, et eux ils disent « mais on ne savait pas qu'il y avait un Saint-Esprit ». Voilà. Et donc ils vont leur en parler, puis ils vont ensuite le recevoir. Voilà, c'est pourquoi donc Léon XIII souhaite un renouveau de l'amour pour la personne divine de l'Esprit-Saint. Et il dit ceci, « On doit aimer l'Esprit-Saint parce qu'il est Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. On doit aussi l'aimer parce qu'il est l'amour, premier, substantiel, éternel. Et rien n'est plus aimable que l'amour. » Et on doit l'aimer d'autant plus qu'il nous a comblés de plus grands bienfaits qui témoignent de sa munificence et appellent notre gratitude. Et puis, disons un petit mot sur Jean-Paul II. Donc, lorsque Jean-Paul II est élu pape, le 16 octobre 1978, l'Église connaît déjà depuis plusieurs années un essor du mouvement charismatique. Et on doit beaucoup au mouvement charismatique d'avoir, revivre une dévotion profonde et vivante dans l'Église catholique à l'Esprit-Saint. Ça vient d'ailleurs aussi du protestantisme, et on doit le reconnaître. Voilà. Jean-Paul II est aussi un héritier du Concile Vatican II, qui a rappelé dans sa constitution dogmatique sur l'Église l'importance de l'Esprit-Saint. Et donc Jean-Paul II a publié en 1986 une encyclique sur l'Esprit-Saint qui s'appelle « Dominum et Vivificantem », qui est Seigneur et qui donne la vie. C'est l'expression du symbole de Nicée-Constantinople. Et cette encyclique vient clore en quelque sorte la trilogie qu'il avait commencée, puisqu'il avait donné une première encyclique en 1979 sur Jésus, Rédempteur de l'homme, donc le Fils, en 1980 sur le Père riche en miséricorde, et puis donc en 86 sur l'Esprit-Saint. Dans cette encyclique, Jean-Paul II rappelle et précise « Par l'Esprit-Saint, Dieu existe sous le mode du don. C'est l'Esprit-Saint qui est l'expression personnelle d'un tel don de soi, de cet être-amour. Il est personne-amour, il est personne-don. » Voilà, il souligne aussi que l'Esprit-Saint est celui qui nous transmet ce que le Fils de Dieu a obtenu dans le mystère pascal. On y reviendra peut-être tout à l'heure au moment des questions, il y aura peut-être un ajout à faire. Et puis, alors ça c'est très important, l'Esprit-Saint est celui qui transmet. En latin, le mot transmission se dit tradition. Donc c'est celui qui accompagne la tradition de l'Église, celui qui transmet. Et Jésus a promis l'Esprit-Saint à l'Église, à ses apôtres au Cénacle, en disant « Il vous guidera, l'Esprit de vérité vous guidera vers la vérité tout entière. » Alors je vous lis quand même ce petit passage de l'encyclique de Jean-Paul II. « L'Esprit-Saint sera le consolateur des apôtres et de l'Église, toujours présent au milieu d'eux, même s'il demeure invisible, comme maître de la bonne nouvelle que le Christ a annoncée. Il enseignera... » Ce sont les paroles de Jésus, et il rappellera. Cela signifie non seulement qu'il continuera, à sa manière qui lui est propre, à inspirer la proclamation de l'évangile du salut, mais aussi qu'il aidera à comprendre le sens juste du contenu du message du Christ. Il en maintiendra la continuité et l'identité de sens, alors que change les conditions et les circonstances. On rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que l'Esprit, c'est celui qui fait demeurer. L'amour qui dure et qui est stable. Et donc Jean-Paul II dit, et c'est très important pour nous dans l'Église aujourd'hui, où on veut changer, changer, changer. Voilà. Eh bien, les circonstances changent, ça c'est vrai. Les conditions changent, ça c'est vrai. Eh bien, au milieu de ces conditions et de ces circonstances qui changent, l'Esprit est celui qui, je reprends les mots de Jean-Paul II, qui maintient la continuité et l'identité de sens. L'Esprit-Saint fera en sorte, conclut-il, que dans l'Église demeure toujours la vérité même que les apôtres ont entendue de leur maître. Donc l'Esprit-Saint, vous voyez, est à la fois, c'est très important, je préfère dire à la fois qu'en même temps maintenant, c'est comme ça, bon. L'Esprit Saint est à la fois, puisqu'il unit, feu, dynamisme. Hein, Sœur Gaëtan nous a rappelé ces images très importantes de l'Esprit Saint aujourd'hui. Feu, dynamisme, souffle. Mais il est aussi celui qui aide à demeurer et qui maintient la continuité et l'identité de la foi, qui ne change pas. Donc l'Esprit Saint ne peut pas se contredire, on y reviendra un peu ce soir, et l'Esprit Saint ne peut pas contredire les enseignements du Fils. Les paroles de Jésus dans l'Évangile, quand aujourd'hui on se réclame de l'Esprit Saint pour dire le contraire de ce que Jésus dit dans l'Évangile, on est dans le péché, on le redira ce soir. Voilà. Et donc l'Esprit Saint continue aujourd'hui à être présent à l'Église. Je ne développe pas la mission conjointe, sur Gaëtan en a dit un petit mot tout à l'heure. C'est suffisant. Je conclue donc. Dans la lettre que Benoît XVI avait publiée le 11 avril 2019, au sujet de la crise liée aux abus. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu des circonstances, je ne rentre pas dans les détails, mais une réunion avait été convoquée à Rome pour tous les présidents des conférences épiscopales du monde, et Benoît XVI, à cette occasion, avait écrit une contribution qui fait 12 ou 15 pages, qui est une pure merveille, et qui, par malheur, allez savoir pourquoi, n'a pas été transmise à la réunion des présidents des conférences épiscopales. Bon, donc il a décidé, quelques jours après, de la publier en Allemagne, donc elle a été publiée, merci Seigneur. Et dans ce texte absolument extraordinaire, voici ce que dit Benoît XVI, entre autres. « Nous autres, chrétiens et prêtres, préférons ne pas parler de Dieu parce que ce discours ne semble pas pratique. » Extraordinaire, quand même. Et malheureusement, c'est tragiquement vrai. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que, quand on m'a dit, par exemple, tu feras le mystère de l'Esprit Saint. Bon, c'est pas très pratique comme thème, il faut reconnaître. C'est plus facile de parler, ça semble, dans un premier temps, en tout cas plus pratique, de parler d'écologie ou de choses très concrètes qui nous servent aujourd'hui. On a l'impression que ça sert plus que l'Esprit Saint. Donc nous préférons, nous, chrétiens et prêtres, parfois ne pas parler de Dieu. C'est quand même un peu un problème. Hein. Le thème de Dieu semble si irréel, si éloigné des choses qui nous préoccupent. Et pourtant, tout change si l'on ne présuppose pas Dieu, mais qu'on le présente. En ne le laissant pas d'une certaine manière à l'arrière-plan, mais en le reconnaissant comme le centre de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Beaucoup se sont moqués de lui, parce qu'ils ont dit « mais enfin, on est en train de parler des abus, là ». Mais Benoît XVI le savait bien. Et quand il dit que s'il y a des choses comme ça dans l'Église, c'est peut-être parce qu'on a mis Dieu à l'arrière-plan, mais on est en plein dans le sujet. Et que si Dieu redevient le centre de nos pensées, de nos paroles et de nos actions, ben, tout changera, dans l'Église d'abord, dans le monde ensuite. Donc il nous faut parler de Dieu. C'est ce que nous faisons en parlant de la Trinité et en parlant de l'Esprit-Saint. Ça peut paraître... Mais c'est un peu surréaliste d'avoir à le dire, parce que la mission en fait de l'Église et de ses pasteurs, c'est d'abord de parler de Dieu, pour le remettre à nouveau au centre de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Alors au terme de cette brève présentation sur le mystère de l'Esprit-Saint, et pour en avoir une très très courte synthèse, écoutons ce que répond le compendium du catéchisme à la question « Qui est l'Esprit-Saint que Dieu nous a révélé ?» Le compendium, c'est merveilleux parce que le catéchisme est déjà une énorme synthèse et le compendium fait une synthèse de la synthèse. Donc en quatre lignes, vous avez le résumé. Je vous les lis. Il est la troisième personne de la Sainte Trinité. Il est Dieu, uni au Père et au Fils et égal à eux. Il procède du Père qui, en tant que principe sans commencement, est l'origine de toute la vie trinitaire. Il procède aussi du Fils, filioque, par le don éternel que le Père fait de lui au Fils, envoyé par le Père et le Fils incarné, l'Esprit Saint conduit l'Église à la connaissance de la vérité tout entière. Et pour terminer, Lorsque saint Paul énumère les fruits de l'esprit, il évoque l'amour, puis la joie. La joie, pour saint Paul, est la première déclinaison de l'amour dans les fruits de l'esprit. Alors on conclut par ces quelques mots du cardinal Ratzinger. L'esprit est esprit de joie, esprit de l'évangile. Une des règles principales pour discerner les esprits pourrait être celle-ci. Là où est la tristesse, là où l'humour se meurt, l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ n'est certainement pas présent. Et inversement, la joie est un signe de la grâce, qui est serein du fond du cœur, qui a souffert sans perdre la joie, n'est pas loin du Dieu de l'Évangile, de l'Esprit de Dieu, qui est l'esprit de la joie éternelle.